osmoza. Osmose, Fabienne Chauvière.
Vous êtes-vous un jour demandé qui avait eu le premier l'idée de donner rendez-vous ? À cette époque, évidemment, les horloges, pendules et autres montres n'existaient même pas en rêve. En ce premier dimanche de 2007, du calendrier grégorien établi en 1563 sous le règne de Charles IX, nous avons eu envie de vous raconter comment on mesure le temps. C'est une belle aventure humaine qui a commencé dans l'Antiquité, quand on s'est intéressé aux étoiles, et puis un jour, on a eu l'idée de fabriquer des sabliers. Si vous allez au musée des arts et métiers à Paris, vous aurez peut-être la chance de tomber sur un homme passionné par le temps. Il emmène parfois les visiteurs sur des chemins à la fois pavés de secondes et de siècles, et il est ici. Yves Roussel, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur de physique, spécialiste de l'histoire des techniques. Depuis quand les hommes mesurent-ils le temps ?
Probablement depuis très longtemps.
Oui.
Peut-être qu'une question plus simple pour une question plus simple à me poser, c'est qu'est-ce qu'il nous reste de ces temps anciens, c'est-à-dire quels sont les objets les plus anciens que nous avons pu conserver qui montrent comment les hommes mesuraient le temps.
Alors, quels sont les objets les plus anciens que les hommes ont conservés et qui montrent que les gens mesuraient le temps ?
Il y a par exemple un objet qui date des Égyptiens, un objet qui date à peu près de 1350 avant Jésus-Christ. Donc vous voyez, ça fait plus de 3000 ans, et qui est une clepsydre.
C'est quoi ça ?
Une clepsydre, eh bien, c'est une espèce de vase qui contient de l'eau et qui est percée. Et l'eau s'écoule. Et au fur et à mesure de l'écoulement de l'eau, eh bien, on voit le temps passer.
C'est un sablier avec de l'eau.
C'est un sablier avec de l'eau. Et en fait, c'est peut-être antérieur au sablier. C'est vraiment un des objets les plus anciens qu'on connaisse qui permettent de mesurer le temps.
Et donc, ça mesurait les secondes.
Ça mesurait les secondes. Ah ben, voilà une autre question.
Que je vous reposerai après Holden. On mesure le temps cette nuit avec Yves Roussel, professeur de physique et spécialiste de l'histoire des techniques. Yves Roussel est du Musée des Arts et Métiers à Paris. Alors, vous nous avez expliqué que les Égyptiens avaient inventé donc ces clepsydres, des espèces de vases avec un trou. On mettait de l'eau dans le vase et puis des gouttes tombaient. Et on mesurait quoi avec ça ?
Ben, on mesurait le temps qui s'écoule. Mmh. Le mot même, le temps qui s'écoule, l'expression, elle a bien une origine. Mmh. Et cette origine est aussi ancienne que cela. Finalement, comme le fait de regarder une rivière s'écouler, l'eau qui s'écoule, c'est un peu la première image du temps qui s'écoule.
À qui ça servait, ces clepsydres ?
Alors... dans les temps les plus anciens, bon, il faut toujours être prudent. Ce qui est certain, c'est que la clepsydre est un outil très utile la nuit, puisque le jour, voilà. Mais la nuit, effectivement, là, il n'y a plus aucun repère de cette espèce. Encore que, les étoiles, le ciel, l'observation du ciel permettent peut-être là aussi de se repérer. Alors, vraisemblablement, dans l'Égypte ancienne, c'est un outil au service des prêtres pour accomplir des rites au cours de la nuit, si ces rites doivent se produire à des moments précis de la nuit. Cela dit, cet outil, il est utile dès qu'il s'agit de mesurer aussi peut-être la durée d'activité des hommes.
Mmh. Que savaient les Égyptiens du temps ? Ils le mesuraient comment ? Ils connaissaient les heures, les secondes, les minutes ?
Ils connaissaient les heures, ou plus exactement, ils avaient une définition des heures, puisque les heures, au fond, c'est une manière de se repérer dans le temps. Mais la chanson parlait de la fraction de seconde.
Oui.
Qu'est-ce que c'est qu'une seconde ? C'est une fraction de minute.
Mm-hmm.
La minute est une fraction d'heure, et l'heure, c'est une fraction de quoi ?
De jour.
De jour. Donc peut-être on peut partir de cette unité-là. L'unité qui est repérée, c'est celle du jour. Et les Égyptiens divisaient le jour en 12 parties, puisque la journée, c'est le, comment dire, c'est le parcours du dieu soleil, du dieu Ré, le long de son chemin de la journée. Et il est écrit, il y a des textes religieux qui indiquent que Ré avait dans son chemin, en quelque sorte, 12 étapes, qui correspondent donc, on pourrait dire, en 12 heures.
Donc il y avait déjà les 12 heures.
Oui, et en fait, beaucoup de civilisations ont connu cette division en 12. Alors peut-être c'est un autre problème, c'est un problème plus mathématique, mais c'est vrai que ce nombre 12 a une importance considérable dans beaucoup de civilisations, et aussi dans la nôtre, puisque nous avons hérité de tout cela. Et que diviser le jour, mais diviser aussi toutes les unités de temps en 12, eh bien, c'est quelque chose qu'on retrouve dans de nombreuses civilisations.
Parce qu'à la grande époque de la Révolution française, les jours ne faisaient pas 24 heures.
Alors voilà, il y a un autre système concurrent au système de division par 12. C'est le système de division par 10. Et le grand moment de rationalisation qui a été la Révolution française a donné lieu à une tentative générale pour instaurer un système d'unités décimales.
Mmh. Ça n'a pas marché.
Oh, si, ça a eu de grands succès. Ça a eu de grands succès pour le système métrique. Ça a eu de grands succès pour...
c'est vrai.
Voilà, pour les, tous les poids et mesures. Mais le temps a résisté. Le temps a résisté. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Ben, par exemple, on a construit des horloges qui mesuraient le temps décimal, c'est-à-dire la journée était divisée en 10 heures. 10 heures le jour, 10 heures la nuit. Dans le même temps, d'ailleurs, il y a eu un autre calendrier, le calendrier révolutionnaire. Et les semaines faisaient 10 jours, c'était les décades. Donc, vous voyez, toute cette tentative pour diviser le temps par 10. Eh bien, cette tentative a échoué.
Si tout le monde a divisé les journées en 12, c'est qu'il y a peut-être des raisons très lointaines qui nous échappent. Alors, dans l'Antiquité, que faisait-on du temps ? Qu'en savait-on ? Et comment le mesurait-on ?
Alors, ce système de clepsydre dont j'ai parlé est très important. On le retrouve en Grèce antique, puisque les orateurs de la démocratie athénienne, par exemple, avaient droit à un certain temps de parole. Il fallait mesurer ce temps et les clepsydres étaient utilisés pour cela. Peut-être que dans les débats à la radio, on pourrait réintroduire ce système. Ce serait plus spectaculaire d'avoir un grand vase, on verrait l'eau s'écouler.
Et plus qu'un chronomètre électronique.
Il faut savoir varier un petit peu les techniques et retrouver la pluralité des solutions techniques.
Pour mesurer le temps, on s'est intéressé aussi beaucoup aux étoiles. On a fait les premières visées astronomiques.
Oui, c'est là où on s'aperçoit que la mesure du temps signifie deux choses. La mesure du temps, c'est mesurer une durée qui s'écoule. Mais c'est aussi se repérer dans le temps. Et se repérer dans le temps, c'est possible parce que le temps est cyclique, parce que le temps est aussi l'espace de la répétition, du rythme, et du rythme naturel.
Et ça, on s'en est finalement assez vite rendu compte.
Je crois qu'on s'en rend compte naturellement, que les animaux s'en rendent compte eux-mêmes, que c'est quelque chose qui forcément est dans l'histoire humaine depuis très 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 longtemps. Si vous voulez un exemple, c'est par exemple notre âge. Si nous étions simplement préoccupés par la mesure du temps qui s'écoule, de la durée, eh bien, peut-être qu'on déclencherait une horloge au moment de notre naissance et on dirait « j'ai 1000 secondes, j'ai 3000 secondes, j'ai 7000 secondes ». Or, notre manière d'annoncer notre âge, c'est plutôt de dire « ben voilà, j'ai eu mon anniversaire hier et j'ai vu 45 printemps ou 45 hivers ». Ce qu'on raconte là, c'est le fait qu'on ait vu l'année se répéter. Et c'est cette répétition qui nous paraît plus importante, parce que retrouver cette régularité aussi... c'est ça notre façon de vieillir.
Et il y a beaucoup de questions qu'on peut se poser autour du temps et qui sont évidentes comme ça, mais auxquelles on ne pense pas forcément. Quand on a préparé l'émission, vous m'avez dit, mais les premiers rendez-vous, finalement, qui a eu l'idée de donner rendez-vous ? Et pour se donner rendez-vous, il faut avoir une notion du temps.
il faut avoir une notion du temps commune. C'est pas se donner des rendez-vous, aujourd'hui, on se donne des rendez-vous très précis.
Oui, mais si on se repositionne à l'époque des Égyptiens ou de l'Antiquité, il n'y avait pas de montre.
Évidemment, et donc la notion de rendez-vous est très différente. Les rendez-vous, c'est peut-être dans une échelle de temps très différente. Par exemple, on peut se donner rendez-vous à un marché. Vous savez, pendant longtemps, la vie économique, par exemple au Moyen-Âge, oui, a été ponctuée par ces grands rendez-vous, et aussi les grands rendez-vous religieux. Là, l'échelle de temps, c'est plutôt les événements au cours de l'année, donc les événements qui peuvent se situer par rapport aux saisons, et on en revient à nouveau à l'observation des phénomènes astronomiques.
Yves Roussel, régulièrement, vous emmenez des visiteurs au musée des arts et métiers sur la route du temps. Vous vous arrêtez devant quels objets ?
Les objets les plus anciens, ce sont par exemple les cadrans solaires. Car ce sont les cadrans solaires qui permettent de mesurer le temps naturel, on va dire l'heure naturelle. Cadrans solaires qui sont finalement aussi anciens que la clepsydre, puisqu'on en trouve autour de 1500 ans avant Jésus-Christ. On en trouve aussi à nouveau chez les Égyptiens. Et ces cadrans solaires, ils permettent de se repérer dans la journée en mesurant l'ombre du soleil. On les pointe vers le soleil projette une ombre. En fait, le cadran solaire, à l'origine, c'est un simple bâton planté. Bon, on peut faire cette expérience très simplement. On regarde l'ombre. Cette ombre augmente et diminue au cours de la journée. Et c'est la mesure de l'ombre qui nous donne un repère dans la journée.
Donc, les premiers instruments qui mesuraient le temps, c'était ça, les clepsydres, les cadrans solaires. La suite, ce sera après Riquet. À tout de suite, Yves Roussel. Vous écoutez Osmose sur France Inter. Je suis avec Yves Roussel qui nous raconte l'histoire de la mesure du temps. Vous nous parliez des cadrans solaires, Yves Roussel. C'est difficile de construire un cadran solaire ?
Ben écoutez, c'est à la portée des enfants que nous invitons au musée. Nous organisons des ateliers cadrans solaires. Donc, on peut très jeune venir fabriquer son cadran solaire au musée et puis en profiter pour le visiter. Donc là, on vous explique les principes du cadran solaire.
Mais voilà. C'est précis ?
Alors, un cadran solaire, si vous voulez, c'est ce qu'on peut découvrir en pratiquant cet atelier. Un cadran solaire, ça indique l'heure solaire. Et en fait, l'ombre que le soleil donne, ça dépend évidemment de l'heure du jour. Mais ça dépend aussi d'autre chose. Ça dépend du moment de l'année. On sait bien que l'hiver, l'ombre du soleil est beaucoup plus courte. Mmh. Et puis, ça c'est un fait très important, ça dépend de l'endroit où on se trouve sur la Terre.
Eh oui.
Et ça va avoir des conséquences historiques très importantes. Parce qu'un cadran solaire peut servir à mesurer l'heure, mais en même temps, observer la position du soleil, ça peut servir à se renseigner, à nous renseigner sur l'endroit où on se trouve.
Eh oui.
C'est-à-dire, vous pouvez
et ça, les
prendre...
hommes, très tôt, ont su le faire.
Oui, c'est un problème. Vous pouvez prendre le problème d'un côté ou de l'autre. Soit vous vous servez de l'observation des astres pour savoir l'heure, soit vous savez l'heure et vous vous servez de l'observation des astres pour vous repérer, pour savoir où vous êtes quand vous voyagez.
Et les voyageurs ont utilisé ça depuis très longtemps.
Oui, les civilisations, les grandes civilisations qui se sont étendues sur des grands espaces se sont généralement consacrées à l'étude des phénomènes astronomiques aussi pour se repérer sur Terre.
Yves Roussel, à partir de quand les hommes ont-ils su mesurer le temps avec précision ? Avec les horloges ou avant ?
Alors, mesurer le temps avec précision... ça nécessite effectivement des horloges et ça a été une préoccupation assez tardive. On est arrivé quand même à une grande précision des observations astronomiques à l'œil nu. Pour vous donner un exemple, les grandes lois de la physique qui ont été découvertes par Newton, elles se sont basées sur des observations qui avaient été faites à l'œil nu. Donc on a toujours été capable d'observer le ciel avec une grande précision.
Et à l'époque de Newton, il y avait des horloges, des pendules ?
Alors, c'est aussi la grande époque des progrès de l'horlogerie. C'est vraiment une époque où on se passionnait pour les engrenages, pour les arts les mécaniques. Et ça culmine donc au XVIIIe siècle, où on voit là des artisans horlogers qui ont construit des horloges absolument inégalées, au moins en termes de beauté. Mais même, enfin, en termes de précision des mécanismes, on avait tellement envie, d'ailleurs, à cette époque, de reproduire le mouvement des corps animés. Il y avait presque une toute puissance.
Il y avait des automates,
Tout ce monde des automates, d'ailleurs, qu'on découvre aussi au musée, avec de nombreux automates de cette époque.
Mais les premières horloges fonctionnaient avec quoi? Parce qu'il faut quelque chose pour les animer, ces horloges. Il faut des poids, il faut des ressorts. Elles fonctionnaient avec quelle énergie, les premières?
Alors, effectivement, là, vous êtes très savante, vous parlez d'énergie, et il faut des sources d'énergie pour faire fonctionner les horloges. Les premières horloges, elles fonctionnaient avec des poids qui descendent. En fait, la première horloge, c'est finalement une aiguille qui tourne.
Oui.
Et pour faire tourner l'aiguille, eh bien, y a un système d'engrenage qui est entraîné par la chute d'un poids. Alors, quand le poids est arrivé tout en bas, eh bien, il faut le remonter. D'où l'expression « remonter les horloges ». En fait, c'est qu'on remonte le poids qui descend. Mais le poids, il doit descendre lentement. S'il descend trop vite, bon, l'aiguille va faire un tour, et puis voilà.
Donc, il faut contrôler tout ça.
Il faut contrôler tout ça. Et en fait, il faut que le mouvement des aiguilles, le mouvement des engrenages soit régulé. Soit régulé par un mécanisme qui fait que la roue dentée avance d'un cran, mais pour une durée bien précise et qui se répète à l'identique. Si bien que pour mesurer le temps, il faut avoir une base, il faut avoir un système périodique qui va servir d'unité de temps. Voilà. Et alors, ça, c'est une grande histoire, c'est-à-dire comment on trouve un phénomène qui se répète avec suffisamment de précision.
Mais comment ont-ils fait ?
Et une découverte très importante se situe aux alentours de 1650. C'est l'étude des propriétés du pendule par le savant Huygens.
Ah oui. Le fameux
savant Huygens qui a en fait eu à la fois beaucoup d'habileté technique et beaucoup d'idées. Et il a étudié de près les propriétés du pendule. Le pendule, c'est une chose toute bête. Hein. C'est un bout de fil. Vous attachez un poids au bout du fil. Et ça se balance. Le mieux, au fond, c'est de le comparer à une balançoire. Voilà une idée. Regardez une balançoire et puis essayez de chronométrer le temps que ça met pour faire un aller-retour.
C'est le tic-tac, finalement ?
Alors, c'est ça qui va nous donner le tic-tac. Ce qui est important, c'est effectivement que le pendule fasse un aller-retour qui se répète toujours à l'identique. Et peut-être de connaître la manière de faire varier cette période. Voilà. Et ça, depuis Huygens, on le sait, c'est-à-dire qu'on a pu commencer à construire des horloges qui avaient une manière de se réguler qui était suffisamment précise.
Alors Yves Roussel, là, on est quoi ? On est au XVIIe siècle, on fait des grosses horloges ?
Voilà, c'est quand même des mécanismes assez imposants.
Et après, on a essayé de miniaturiser.
En même temps, c'est-à-dire au XVIIe siècle, vous avez les premières montres qui utilisent en fait des ressorts. C'est-à-dire le premier pas vers la miniaturisation, ça était l'utilisation du ressort. Le ressort, c'est à la fois une source d'énergie, donc on peut utiliser un ressort que l'on remonte avec une clé. Et là, le ressort est bien tendu, on va le laisser se détendre et là, on a une source d'énergie. Mais le ressort peut aussi remplacer le pendule, en fait. Parce qu'un ressort, ça oscille. Prenez un ressort tout simple. Hein, vous suspendez un poids à ce ressort. Là, le poids, vous pourrez le faire aller et venir. Alors là, ce sont des ressorts en spirale. Hein, c'est un peu plus petit, d'ailleurs. Un peu plus pratique. Et le ressort oscille d'un côté et de l'autre. Voilà le mécanisme de régulation qui va permettre de commencer à construire des montres. Donc là, on peut construire des objets plus petits.
Et Mais on peut transporter l'heure.
On peut transporter l'heure et ça va devenir très important. Parce que c'est quand on se déplace que la question de se repérer dans l'espace devient importante.
Et notamment quand on se déplace en bateau.
Voilà. Et pendant longtemps, les marins se sont contentés de naviguer tout près des côtes pour pouvoir se repérer.
Les marins connaissaient la latitude, mais les marins ont eu du mal à avoir une connaissance de la longitude. Il leur fallait une bonne horloge pour ça.
Alors peut-être il faut rappeler rapidement, la latitude, c'est un peu l'endroit où on se trouve entre le pôle et l'équateur. Mmh. Voilà. On est à la latitude 0 quand on est à l'équateur, on est à la latitude 90 quand on est au pôle Nord.
Et à Paris, quelle est la latitude de Paris, Bruxelles?
Voilà, on
42 degrés Nord.
On trouve toujours le moyen de se faire coller. Alors, la latitude, elle est connue effectivement des marins, mais simplement à partir du 15e siècle. Et ça, c'est grâce aux observations astronomiques. Je parlais tout à l'heure du cadran solaire. Et effectivement, en visant le soleil, on a facilement la connaissance de la latitude, à condition de se situer dans l'année, de savoir à quel moment de l'année on est.
Et pour la longitude, c'est une autre histoire. Je vous propose une pause musicale. Vous voulez bien ?
Avec plaisir.
Karen Dalton. Alors Yves Roussel, expliquez-nous pourquoi les marins avaient besoin d'une horloge précise pour se déplacer avec un maximum de sécurité.
Parce que pour se repérer en mer, il faut avoir deux coordonnées, la latitude et la longitude. Donc nous avons rappelé ce que c'était que la latitude. La longitude, c'est quelque chose qu'aujourd'hui on comprend facilement parce qu'on est habitué au voyage en charter, on est habitué à régler sa montre. Donc on sait bien qu'on change de fuseau horaire. Alors pour dire rapidement, la longitude, ça correspond un petit peu au fuseau horaire dans lequel on se trouve.
Alors quel rapport entre le voyage des marins d'autrefois et les pendules ?
Eh bien, parce que pour savoir à quelle longitude on se trouve, c'est très compliqué. C'est-à-dire, c'est pas du tout évident.
C'est pas avec le soleil qu'on trouve la longitude.
Voilà. Il ne suffit pas de regarder au-dessus de sa tête. Le soleil, il nous donne l'heure locale. Alors, c'est quoi l'heure locale? Pour dire très simplement, par exemple, le soleil, il nous donne midi. Midi, c'est quand il est au plus haut. Et ça, voilà. Ça, il est midi pour nous, à l'endroit où on se trouve. C'est la seule heure que les gens connaissaient à l'époque. Enfin, je veux dire par là qu'il n'y avait pas beaucoup de sens à s'intéresser à une autre heure. L'heure, c'était l'heure que vous indiquait le soleil à l'endroit où vous vous trouviez. Voilà. Mais en même temps, on a commencé à s'intéresser au décalage horaire justement pour savoir où on se situait.
Et donc, on avait besoin pour cela d'horloges qui gardent une bonne heure par rapport au départ.
Eh bien voilà, on comparait l'heure locale, on comparait par exemple le midi donné par le soleil, à l'heure de l'endroit d'où on était parti. On emmenait l'heure de son port d'attache, voilà.
Et ça a été difficile de trouver ces horloges précises ?
Ben oui. Parce que, en fait, le voyage en mer était une épreuve difficile pour ces horloges qui prenaient très facilement du retard. Et même, en fait, on pourrait... Alors là, voilà, les gens qui ont l'esprit calculatoire, ils peuvent sortir un bout de papier et un crayon et essayer de réfléchir à ça. Toute la circonférence de la Terre, ça fait 24 heures.
Oui.
Donc vous voyez, une heure de retard correspond à un 24e de la circonférence de la Terre. Alors, on va peut-être donner tout de suite le résultat. Si vous êtes à l'équateur et si vous faites... votre horloge vous a pris 4 secondes de retard. 4 secondes de retard, ça correspond à une minute d'angle en longitude, donc ça correspond à presque 2 kilomètres.
Voilà.
Si vous êtes à l'équateur.
Voilà. Et on est vite dans le pâté.
On est vite dans le pâté si on a pris quelques secondes de retard.
Et donc, c'est pour ça que les Anglais ont lancé un concours donné beaucoup d'argent à celui qui réussirait à fabriquer une horloge qui saurait rester précise.
Oui, c'est peut-être même un des premiers grands exemples de politique scientifique ambitieuse pour les États modernes, les États européens. En Angleterre, c'est le Parlement anglais en 1714 qui a décidé d'une très importante récompense à celui qui résoudrait le problème de la longitude. Voilà comment c'était intitulé.
Et qui a résolu ce problème ?
Ça a été très long, en fait. Le défi était important et la récompense très grande. C'était à peu près l'équivalent de gagner au loto aujourd'hui.
Oui.
Mais on a cherché pendant près de 50 ans, en fait. On a cherché dans plusieurs directions. Il y avait l'idée, une des pistes, c'était évidemment l'observation astronomique. Mais un certain nombre de personnes ont eu confiance, ont cru dans la possibilité de réaliser des horloges suffisamment précises et surtout capables de résister au voyage. Et un des grands noms de ces découvertes, c'est John Harrison, un Anglais, qui a effectivement, on va dire, le premier réussi à en tout cas, il a reçu une partie de la récompense parce qu'effectivement, son horloge, par exemple, une de ses horloges avait pris un retard de 5 secondes au bout d'un voyage de 2 mois dans les Antilles. Donc, vous voyez, c'est des résultats de grande valeur.
Pas mal, pas mal. Et à partir de quand, Yves Roussel, a-t-il fallu penser à synchroniser les horloges ?
Peut-être avant, il est important que je signale qu'au Musée des Arts et Métiers, on a un autre grand nom de cette épopée. Bon, sans chauvinisme, mais vous savez bien comment c'est.
Donc il est français ?
Voilà. Plus précisément, il est suisse. Voilà. Mm-hmm. Ferdinand Berthoud, qui était suisse, mais qui est arrivé très jeune à Paris et qui est devenu l'horloger du roi. Et qui a eu l'intelligence de léguer tout son atelier en échange d'une pension. Et donc, si vous voulez accéder à l'immortalité, c'est toujours une bonne chose de céder vos affaires à l'État, parce qu'après, ça se retrouve dans les musées et vous pouvez les visiter. Et au Musée des Arts et Métiers, on peut effectivement visiter voir l'atelier de Ferdinand Berthoud.
Et qu'est-ce qu'on voit ?
On voit d'abord ses propres horloges marines, donc certaines sont imposantes. On voit son atelier avec ses instruments qui ont servi à fabriquer ces horloges, qui ont servi à les tester, à tester leur résistance, à faire différents essais. Pour vous donner un tout petit exemple technique, les horloges qui fonctionnent avec des ressorts, par exemple, ces ressorts sont métalliques. Et le métal peut réagir à la différence de température en se dilatant et avoir des autres, perdre en quelque sorte l'unité de temps. L'unité de temps change. Voilà, donc c'est tous ces problèmes qu'il a fallu résoudre.
Et donc on peut visiter ça au Musée des Arts et Métiers. Alors je repose ma question maintenant, Yves Roussel, j'ai le droit, j'espère. À partir de quand a-t-il fallu synchroniser les horloges dans une ville, dans un pays ? Et comment a-t-on fait ?
Une fois que ces horloges très précises ont été fabriquées, apparaît effectivement l'idée qu'avoir l'heure, c'est pas forcément avoir l'heure locale. C'est un profond bouleversement, au fond, de partager une heure, quel que soit l'endroit où on se trouve. Qu'on soit à Genève ou à Brest. Et tout ça, c'est toujours lié à la question du transport. Parce que avoir la même heure qu'à Genève, bon, ce qui compte, c'est que quand vous arrivez vous-même à Genève, vous vous synchronisiez.
Voilà.
Voilà. Et on se déplace et puis on change d'heure. Oui. On a l'habitude de le faire aujourd'hui quand on voyage. Bon, les moyens de transport ont changé, sont devenus plus rapides. Et là, il commence à se produire des phénomènes intéressants. Par exemple, le chemin de fer. Le 19e siècle, c'est le grand bouleversement amené par les trains. Or, les trains, pour une compagnie de chemin de fer qui fait partir un train d'un point à un autre, qui fait partir un train dans l'autre sens, les trains risquent de se rencontrer.
Ah oui.
Ça peut provoquer des accidents. Et là, il est bien nécessaire d'avoir des repères qui ne dépendent pas de l'endroit où on est, de l'endroit où on part. Donc, ce sont les compagnies de chemin de fer qui ont été les premiers agents de l'unification du temps sur tout un territoire.
Comment ont fait ces compagnies de chemin de fer pour synchroniser leurs horloges, Ne répondez pas tout de suite. On regarde quelques photos avec Aldebert. Vous nous répondrez ensuite. Alors, Yves Roussel, du Musée des Arts et Métiers, comment ont-ils fait au XIXe siècle pour que la gare de Caen ait le même horaire que la gare de Cherbourg ou la gare de Paris ?
Ben, le XIXe siècle, c'est aussi le grand progrès, la période des grands progrès en matière de transmission de l'information et de l'utilisation de l'électricité pour transmettre une information. Et on a essayé, par exemple, le système des horloges synchronisées par l'électricité. Et on peut voir d'ailleurs au Musée des Arts et Métiers une horloge mère, comme ça, qui donnait l'heure et qui envoyait l'heure par impulsion électrique à d'autres horloges. C'est en fait le problème général de la synchronisation qui n'est pas simple. Le plus simple, on pourrait dire, c'est se promener avec sa propre horloge et de régler toutes les autres horloges.
Je ne pense pas que ce soit très précis comme méthode.
Ça prend du temps.
Oui.
Et puis, ça nécessite de se déplacer. Mm-hmm. En fait, se synchroniser, c'est vraiment lié à la rapidité avec laquelle on peut transmettre une information. Et il n'y a qu'avec l'électricité qu'on a vraiment réussi à transmettre une information suffisamment rapidement. Parce que pour se synchroniser dans le temps, c'est essentiel de pouvoir envoyer une information quasiment instantanée.
Et oui.
Quasiment instantanément. Mais là, on touche d'ailleurs à un problème théorique que vous avez peut-être évoqué ailleurs, parce que c'est précisément parce que la transmission d'une information ne peut pas se faire plus vite que la vitesse de la lumière, que Einstein...
Vous nous amenez chez Einstein, je le sentais. C'est d'ailleurs en regardant les horloges et en se demandant comment elles étaient synchronisées qu'il a eu cette idée de travailler sur le temps.
L'idée du temps, elle se modifie forcément si on réfléchit à l'idée de la synchronisation. Et que la synchronisation parfaite, ça n'existe pas.
Mmh.
Je veux dire par là qu'il faut toujours le temps pour envoyer l'information de synchronisation. En tout cas, le 19e siècle, c'était quand même un grand progrès parce que l'information envoyée par l'électricité, évidemment, ça se fait très rapidement.
Et donc voilà pourquoi on parle d'horloge mère et d'horloge fille.
Oui, il y a eu d'ailleurs un autre système qui a eu beaucoup d'importance à Paris, c'est les horloges pneumatiques.
Et ça marchait comment ça ?
Eh bien c'est aux alentours de 1875 qu'on a eu l'idée comme ça de construire un réseau d'air comprimé. Et ou d'ailleurs un réseau d'air éventuellement sous très faible pression, ça fonctionnait pareil. C'est-à-dire ce sont des tuyaux et on envoie une petite impulsion de pression, donc un petit choc, si vous voulez.
Aux horloges.
Et on l'envoie à travers le tube qui contient l'air, et ça se transmet de l'horloge mère à l'horloge fille.
Et beaucoup de personnes étaient même abonnées à ce système pour avoir l'heure exacte à la maison.
Oui, on s'abonnait à ce service. Donc vers 1885, par là, il y avait quelque chose comme 3500 abonnés à l'heure à Paris.
Et puis après, il y a eu l'horloge parlante, mais ça, c'est une autre histoire.
Ah ben, c'est surtout qu'il y a eu le téléphone, par exemple.
Voilà.
Il y a eu tous les moyens de communication qui bénéficiaient aussi d'un réseau. Parce que l'idée, c'est quand même de construire un réseau. Donc c'est sûr que quand vous avez le réseau du téléphone, c'est très pratique aussi pour synchroniser une montre ou une horloge. Et la radio, parce que la radio aussi nous permet d'envoyer l'heure.
Absolument. Je crois que France Inter, d'ailleurs, porte le signal de l'heure. Yves Roussel, puisque je vous tiens et que vous connaissez tout, des pendules, des horloges et des montres, j'aimerais que vous m'expliquiez une fois pour toutes comment ça marche les montres à quartz.
Ah. D'abord, on va reprendre un peu les repères de tout à l'heure. Une source d'énergie.
Oui.
Les sources d'énergie qui apparaissent justement avec le 19e siècle et qui vont être utilisées beaucoup au 20e, c'est l'électricité.
L'électricité, les batteries.
Les batteries, les petites piles. Donc voilà, on a l'électricité qui va nous fournir l'énergie. Il nous faut un régulateur, un système périodique. Eh bien, c'est le petit cristal de quartz. Alors, au fond, c'est un oscillateur mécanique qui fonctionne comme le pendule, essayons de trouver un exemple simple, peut-être un verre que l'on fait vibrer.
À partir du moment où on le fait vibrer, il vibre régulièrement, c'est ça ?
Il vibre régulièrement. Alors évidemment, le verre, à un moment, il cesse de vibrer, donc on le relance. Et c'est un peu le rôle de la source d'énergie, de relancer la vibration.
Donc c'est la vibration qui donne le tempo.
C'est la vibration qui donne le tempo. Et les cristaux vibrent à des fréquences très précises. Ce sont des petites unités de temps, des petites fractions de secondes, qui sont très très petites dans le cas du quartz. Et après, ce qui a permis les montres à quartz, c'est une autre révolution. C'est un peu la révolution du silicium, c'est-à-dire la possibilité de faire des circuits intégrés de la très petite électronique. Et ça, c'est possible dans les années 1960. Ce qui fait que la période, la vibration du quartz, qui est très 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 petite dans le temps, elle va être multipliée de manière à arriver à la fraction de seconde et à pouvoir être utilisée dans une montre à quartz.
Yves Roussel, au Musée des Arts et Métiers, vous montrez aux visiteurs combien mesurer le temps a été important pour les hommes. Aujourd'hui, ça ne pose plus de problème, la mesure du temps. Ou est-ce qu'il y a encore des questions qui se posent ?
Les questions techniques qui se posent ?
Oui.
Je répondrai peut-être un peu par une pirouette. Vous voyez, on a parlé là des horloges décimales de la Révolution française. Eh bien, une des questions qui peut se poser, c'est pour des raisons économiques, l'économie, c'est toujours une source de rationalisation. Est-ce que utiliser ce temps divisé en 12, c'est très pratique ? Donc, je pense qu'il y a des utilisateurs, des utilisations techniques où on préfère diviser le temps de manière décimale, par exemple.
Oui, mais mesurer le temps, techniquement, on a tous les moyens à notre disposition. On a encore besoin de plus de précision.
Alors, ça dépend un petit peu des utilisations. Je pense que tout ce qui est la navigation aérienne et évidemment, ce qui concerne la conquête de l'espace a encore besoin d'échelles de temps très importantes, enfin très très précises, de faire des départs en avant dans la précision.
Dans votre visite du Musée des Arts et Métiers, quelles sont les pièces qui vous tiennent le plus à cœur ?
Ah, ben je risque de faire des jaloux parmi les objets du musée. L'astrolabe, qui est un très bel objet. Les horloges marines de Ferdinand Berthoud, bien sûr. Et j'ai un petit faible pour ces horloges mères, ces horloges électriques, parce que j'aime bien tout ce qui relève de l'électricité et toutes les idées qui sont venues avec l'électricité. Mm-hmm. Ça a été une époque très bricoleuse, c'est ça. En fait, voilà, j'aime beaucoup les époques où beaucoup de gens, y compris des anonymes, qui possédaient un minimum de culture scientifique, mais au 19e siècle, vous voyez, il y avait beaucoup de revues de vulgarisation. Donc beaucoup de gens se cultivaient sur les découvertes scientifiques les plus récentes et faisaient preuve d'imagination. C'est la grande période des inventeurs. Et ces inventeurs ont parfois trouvé réalisé des progrès techniques importants en utilisant les propriétés de l'électricité.
Et notamment dans la mesure du temps. Alors Yves Roussel, vous nous avez raconté l'histoire de la mesure du temps, mais là nous arrivons au 7 janvier 2007. C'est pas 2007 pour tout le monde, parce que notre calendrier grégorien, finalement, il a été mis en place au 16e siècle. Que peut-on dire des autres calendriers ? Est-ce qu'on a toujours divisé les années en 12 mois ?
Alors la division en 12 mois est très ancienne. Bien avant, 2000 ans avant Jésus-Christ. En fait, la division en 12 mois, c'est probablement lié aux phases de la Lune. Il y a à peu près 12 lunaisons par an. Je dis bien à peu près, parce que si vous faites une année lunaire, ce qui est toujours le cas, par exemple,
ce que font les musulmans,
le calendrier musulman, vous voyez bien que l'année lunaire se décale par rapport à l'année solaire. Pour prendre l'exemple de Ramadan, il se décale pas tout à fait d'un mois chaque année. Donc ça, c'est dû au fait que si vous prenez des mois lunaires, vous avez 12 mois, vous pouvez faire une année de 12 mois, mais cette année est un petit peu plus courte que l'année solaire. L'année solaire, celle qui correspond, on va dire, aux saisons, par exemple, qui fait que le mois de janvier tombe en hiver. Les années lunaires, ça, c'est quelque chose de très ancien. Voilà.
Et les années solaires, c'est quelque chose qui a été mis au point par les Romains.
Alors les Romains avaient cette expérience de rajouter des jours pour rattraper le décalage. et donc d'avoir des mois un peu plus longs que 30 jours, par exemple.
Et on connaissait déjà les années bissextiles. Voilà, eh bien, c'était le premier Osmos de janvier 2007. Merci beaucoup, Yves Roussel.
Merci à vous.
Roussel, professeur de physique, spécialiste de l'histoire des techniques. Vous pouvez le voir au musée des arts et métiers. Il vous amènera voir des sabliers, des clepsydres, des horloges, des astrolabes, des cadrans solaires. Voilà, merci infiniment Yves Roussel. C'était donc le premier Osmos de l'année. Merci à Tanguy Lecorneau, à la technique ce soir. Juste après les informations, vous retrouverez Brigitte Palchine qui reçoit dans Nocturne Cyril Poutman. C'est le fils d'André Poutman et il vient d'écrire Bilan provisoire. C'est édité par Kalman Lévy. Je renouvelle mes voeux de bonne année à tous. En attendant, bonne semaine et à dimanche prochain, 1h du matin.
Et à vous aussi, Fabienne Chevière. Rendez-vous la semaine prochaine. Dans quelques minutes, c'est Brigitte Palchine qui fera la première nocturne de cette année. France Inter, il est 3h.